Nous sommes le lundi 6 mai, vous écoutez France Inter, il est 5h.
France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
Bonjour à tous. Les élections européennes, c'est dans un peu plus d'un mois. Les Français se sentent-ils suffisamment informés sur ce scrutin? Quel regard portent-ils sur l'Europe? France Inter publie ce matin une enquête sur le sujet et on vous donne les résultats à 6h20. De nombreuses bibliothèques européennes victimes de vols de livres depuis plusieurs mois. Et ce qui est curieux, c'est que ce sont tous des ouvrages russes anciens qui sont dérobés. Anthony Bélanger nous en dira plus dans son Histoire du Monde à 7h moins le quart. Comment les gens deviennent racistes? C'est la question de Mathéo, 7 ans, au petit bateau. Dans la bibliothèque des ados, un roman policier signé Sylvie Alouche. Quant à l'invité déjà debout à 6h moins le quart, il tient un hôtel à Arles. Il se lève tôt, il travaille beaucoup. Mais pour lui, c'est un métier passion. Et à vous qui vous levez tôt également, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h.
France Inter.
Le journal, Héloïse Roger, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Au lendemain de son arrivée à Paris, Xi Jinping rencontre aujourd'hui Emmanuel Macron.
Le président chinois entame une visite d'État sur 2 jours en France. Au programme aujourd'hui, cérémonie officielle aux Invalides et dîner d'État à l'Élysée pour fêter les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises. Il sera reçu par le président français, mais aussi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La guerre en Ukraine et les conflits commerciaux seront évoqués, Dominique André.
La guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, est un sujet prioritaire, fait savoir l'Élysée. Hier, le journal Le Figaro publiait une tribune de Xi Jinping dans laquelle il écrit espérer que la paix et la stabilité reviennent rapidement en Europe. Mais le président chinois n'a jamais condamné l'invasion russe et prochainement, il recevra Vladimir Poutine pour la deuxième fois à Pékin depuis le mois d'octobre. Durant cette visite d'État, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est que la Chine fasse pression pour faire évoluer Poutine. Emmanuel Macron le croit-il vraiment? L'autre grand dossier de cette visite, c'est le commerce, avec 49 milliards d'euros de déficit commercial pour la France en Chine et près de 400 milliards pour l'Union européenne. La politique défensive de l'Europe sur les voitures électriques chinoises irrite profondément Pékin, qualifié de partenaire, concurrent et rival systémique en 2019.
Demain, les deux chefs d'État se rendront dans les Hautes-Pyrénées, une étape pour créer le cadre d'un échange franc et amical. Toujours aucun aboutissement dans les discussions pour une trêve entre Israël et le Hamas. Les discussions sont au point mort. Une réunion entre les deux parties s'est achevée hier au Caire. Elles doivent se poursuivre aujourd'hui au Qatar après 7 mois de guerre. Dans ce contexte, l'armée israélienne a indiqué que 3 de ses soldats ont été tués et 12 autres blessés par des roquettes tirées par la branche armée du Hamas autour de Kerem Shalom, principal point de passage de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, fermée depuis par Israël. Quelques heures plus tard, 16 personnes ont été tuées à Rafah dans des frappes israéliennes.
En Allemagne, 2 manifestations pour dénoncer les violences en politique ont été organisées hier soir.
À Berlin et à Dresde, c'est dans cette ville de l'est du pays qu'a eu lieu vendredi 2 agressions. 2 hommes ont été frappés à coups de poing et de pied alors qu'ils collaient des affiches pour les prochaines élections européennes. Parmi eux, un eurodéputé du parti du chancelier Olaf Scholz. Un adolescent s'est rendu à la police hier. Le jeune homme de 17 ans affirme être l'un des agresseurs.
France Inter 5h03, 3 morts en moins de 48 heures à Sevran en Seine-Saint-Denis.
Et 2 hommes ont été tués par balle hier en fin d'après-midi. Vendredi soir, une fusillade liée au trafic de drogue avait fait 1 mort et plusieurs blessés graves. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est rendu sur place hier, annonçant le renforcement de la présence policière sur les lieux.
On sera présent en termes de sécurisation. On l'a été ces jours derniers, on le sera dans les jours qui viennent. Le ministre de l'Intérieur m'a demandé de mobiliser beaucoup d'effectifs en présence de voies publiques, des effectifs locaux, mais aussi des effectifs de forces mobiles. Il y en a ce soir à Sevran. Et donc nous allons être extrêmement présents pour sécuriser les quartiers, bien évidemment. Et puis aussi, on va poursuivre, sous l'autorité du procureur de la République de Bobigny, on va poursuivre les investigations judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants. On a de bonnes raisons de penser que les faits de ce soir ne sont pas complètement étrangers au trafic de stupéfiants. On a des résultats extrêmement positifs sur Sevran, Aulnay. Donc on va poursuivre toutes ces opérations d'investigation judiciaire qui sont essentielles pour mettre hors d'état de nuire les trafiquants.
À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, les enquêteurs ont tenté de comprendre ce qui s'est passé le 27 juin dernier, près d'un an après la mort de Naël, 17 ans. L'heure était à la reconstitution des faits. Hier, les lieux étaient complètement verrouillés par les forces de l'ordre. Les deux policiers qui sont intervenus lors du drame étaient présents, cagoulés pour masquer leur identité. Le décès de l'adolescent avait entraîné de grosses émeutes dans toute la France l'été dernier. Plusieurs rassemblements partout en France hier pour lutter contre la transphobie, à l'appel de 800 collectifs et personnalités, notamment Annie Ernaux ou encore Vanessa Springora. Les manifestants s'opposent à une proposition de loi des sénateurs qui veulent interdire aux mineurs les bloqueurs de puberté ou les traitements hormonaux. Présentation aujourd'hui par le gouvernement du plan Ecophyto 2030. Il est destiné à réduire l'usage des pesticides en France. L'objectif de réduction de 50% des produits phytosanitaires d'ici 2030 doit être maintenu. Les intempéries ont fait de gros dégâts en Dordogne. Les violents orages ont balayé le sud du département. 600 foyers sont privés d'électricité, notamment à cause de la chute d'un arbre sur une ligne électrique. De nombreuses maisons ont été inondées, des routes également qui sont devenues impraticables. Les dégâts sont aussi très importants sur les vignes et les arbres fruitiers.
En rugby, les joueurs du Stade Toulousain filent en finale de la Coupe d'Europe.
Vainqueurs hier des Harlequins, 38-26, ils ont décroché leur titre. Et pour la finale, finale qui sera face aux Irlandais du Leinster. Les deux meilleures équipes du monde s'affrontent. C'est le moment pour les Toulousains de prendre leur revanche, souvent battus par le Leinster ces dernières années, Fanny Levechevestrier.
Le contraste était saisissant hier soir entre l'euphorie des supporters, tout à leur joie de célébrer une huitième finale historique que seule la pluie a fini par faire rentrer chez eux, et la retenue des joueurs toulousains à l'image d'Alexandre Roumat.
Rien n'est fait, rien n'est acquis, et puis toujours pareil, voilà, tant que tu touches pas cette coupe, tant que tu gagnes pas un titre, j'ai envie de dire, ça sert à rien de faire les beaux.
Le troisième ligne n'a pas tort, surtout quand vous allez vous frotter dans trois semaines à la moitié de la sélection irlandaise. Notre ogre, dit du Leinster le manager Hugo Mola, avec un goût de revanche dans la bouche de François Cross.
Les finales sont belles, mais celle-là le sera d'autant plus parce que c'est une équipe qui nous a éliminé pas mal de fois. Donc là, on a la chance de les affronter en finale sur terrain neutre. Et voilà, on en a hâte d'y être. Donc il nous reste trois semaines pour nous préparer et feu.
Et malin, le capitaine Antoine Dupont a déjà trouvé un moyen d'inverser la pression.
Nous, on s'est arrêté deux fois en demi face à eux, mais eux sont arrivés en finale pour ne pas la gagner. Donc je ne sais pas qui est le plus heureux ou malheureux dans l'histoire.
Bon, pour les plus heureux, on a notre petite idée. Les fans de rugby se délectent déjà d'assister à un nouvel épisode de Star Wars. La guerre des étoiles version Ovalie. Entre Toulouse, 5 étoiles sur le maillot, un record. Et le Leinster, son dauphin, avec 4 sacres à son actif.
Les Toulousains vont tenter donc de décrocher leur 6e étoile. La finale aura lieu le 25 mai, dans 3 semaines, au stade de Tottenham à Londres. Et puis en attendant ce soir, suite de la 32e journée de Ligue 1 de football, à 21h, Lille, 4e au classement, reçoit Lyon, 9e.
C'était le journal d'Héloïse Roger, il est 5h07.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Une journée encore bien pluvieuse, Céline Dacosta.
Oui, mais c'est quand même sur l'est du pays qu'on aura le plus de précipitations. Des averses qui seront même orageuses du sud-est à la Franche-Comté avec de bonnes quantités de pluie. On aura un petit peu de neige également sur les Pyrénées et les Alpes au-dessus de 2200 mètres. Les Alpes-Maritimes et la Corse devraient rester au sec avec un soleil bien voilé. Ça, c'est pour l'est. Un petit coup d'œil à l'ouest où ce sera plus calme, surtout de l'Aquitaine au centre et en Bretagne, où on aura quelques éclaircies, mais les nuages vont vite reprendre le dessus. On aura même des orages dans l'après-midi sur le quart nord-ouest. Pour toutes les autres régions, un ciel de traîne classique va se mettre en place avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de faibles averses. Les températures encore assez douces le matin, 7 à 13 degrés, ça baisse un peu l'après-midi avec les précipitations, 14 à 18 du nord au sud, jusqu'à 25 encore pour la Corse. Mais patience, les températures en hausse et le retour du soleil pour tout le monde, ce sera à partir de mercredi et au moins jusqu'à la fin de la semaine.
France Inter, le 5-7.
Je vous donne trois des prochains rendez-vous. Les chroniques littorales avec une société qui analyse les données énergétiques des navires, ce qui permet de réduire leur empreinte carbone. Cyril Lacarrière, lui, nous racontera la naissance des blogs. Quant à Tanguy Pastureau, il teste les limites physiques de l'amitié avec son camarade Daniel Morin. Voilà pour le menu de la première demi-heure. On y ajoute une pointe de sel pour commencer, le sel d'Olivia Ruiz. Bon réveil à l'écoute de France Inter.
Coupe mes jambes quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble un...
Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment. Émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi pichoncito. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment. Émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Sonrisa, mi gasolina, tu piel, mi calma. Car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre,
le sel, c'est la déclaration d'amour d'Olivia Ruiz à son fils, à retrouver sur son nouvel album La Réplique, qui est sorti au mois de mars et qui mêle français et espagnol à l'image de cette chanson. Il est 5h12, les chroniques littorales nous présentent ce matin un nouvel outil pour réduire l'empreinte carbone du transport maritime. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Il s'agit des données énergétiques des navires qui sont très précieuses et qu'il faut apprendre à analyser.
C'est la raison pour laquelle Jean Brossolet, le directeur général d'Ecomerdata, une des sociétés de Marine Elec, est avec nous. Ecomerdata, Jean Brossolet, votre mission, vous, c'est justement d'étudier, de recevoir ces données énergétiques des navires, mais pourquoi faire ?
La question de la connaissance précise des données énergétiques des navires, c'est la première pierre sur laquelle on peut travailler à la décarbonation de la flotte existante.
Alors attendez, qu'est-ce que vous faites alors ? Parce qu'il y a 800 navires sous pavillon français.
C'est ça, à peu près, ces navires, ils sont là pour quelques années encore dans la flotte. Chez Ecomerdata, nous posons des capteurs sur les navires qui sont nos clients. On parle de tous les navires de commerce, mais essentiellement les navires de service, la pêche industrielle, la pêche artisanale, les navires fluviaux de transport également. Nous posons des capteurs, ensuite nous proposons à bord de l'aide à l'éco-conduite avec de la reconnaissance de phase.
Qu'est-ce que c'est l'éco-conduite, la reconnaissance de phase?
L'éco-conduite, la meilleure façon d'aborder ça, c'est de faire le parallèle avec la voiture. On a chacun dans notre voiture des indicateurs assez précis de la consommation immédiate, la consommation sur les derniers kilomètres, les 100 kilomètres, le dernier voyage, etc. Et à bord des navires, on installe des systèmes équivalents, mais qui permettent aussi aux marins de se situer par rapport à la phase de travail du bateau. Donc, quand on parle de reconnaissance automatique de phase, ça permet aux marins, par exemple, s'il est en opération de remorquage pour un marqueur, il ne va pas avoir les mêmes indications que s'il est en phase de repositionnement. Donc on prend en compte vraiment la réalité et les contraintes opérationnelles de chaque type de navire pour donner des préconisations qui ont un sens dans l'opération du bateau.
Tout ça pour de l'économie d'énergie.
Absolument. Hein. Ensuite, notre travail, c'est de sortir la donnée sur le cloud. Donc on a mis en place une plateforme data sur un cloud sécurisé. Et ensuite, nous nettoyons cette donnée, nous la qualifions et nous l'analysons en essayant de trouver des relations et des algorithmes qui permettent d'analyser, d'améliorer l'efficacité opérationnelle du navire, de travailler sur la maintenance prédictive, le bon dimensionnement des équipements, toutes briques dans notre travail qui vont chacune permettre une nouvelle amélioration de la consommation énergétique du bateau. Donc l'idée encore ici, c'est d'accompagner la flotte existante dans l'effort de décarbonation, qui pour le maritime, je le rappelle encore une fois, est très élevé, hein, puisqu'on parle de net zéro en 2050.
Qu'est-ce que ça veut dire net zéro 2050? C'est plus du tout de carbone en 2050,
c'est ça, oui. Par le jeu de compensation, hein, qui qui reste à déterminer, mais on commence à parler du marché du crédit carbone. Mais on doit arriver à un niveau de carbone net zéro en 2050, avec des points intermédiaires en 2030 de moins 40% de la consommation énergétique. Tout ça étant suivi dans le cadre d'un mécanisme qu'on appelle le carbone index, mis en place depuis un an maintenant. Donc les armateurs devront s'assurer qu'il s'améliore année après année pour chaque navire. Donc nos solutions vont aider les armateurs à améliorer ce carbone index des navires. Et il faut aussi garder en tête qu'il y a un enjeu économique assez fort pour les armateurs, puisque le prix des carburants, c'est souvent le premier poste de coût d'un navire. On a cette chance peut-être dans le maritime que l'écologie et l'économie puissent aller de pair.
Donc vous, ce sont les armateurs qui font appel à vous. Vous allez m'aider à faire des économies.
C'est ça.
Combien de bateaux avez-vous maintenant comme clients ?
Nous avons 250 systèmes installés sur des bateaux de pêche artisanale et des bateaux de service.
250 systèmes, ça veut dire 250 bateaux ?
Oui, absolument.
On suppose que les futurs navires là qui vont sortir des chantiers navals, eux n'ont pas besoin de tout ça puisqu'ils sont construits déjà en économie.
Oui, vous avez raison. Là, on a en fait deux vagues successives, si j'ose dire. La première, c'est la décarbonation. La deuxième, c'est l'efficience opérationnelle, la digitalisation des bateaux. On va doucement vers le navire autonome. En tout cas, il sera de plus en plus autonome. Donc la donnée, forcément, est centrale dans cette lame un petit peu de fond. Et donc, ce que nous pensons, c'est que toutes les briques que nous mettons en place avec comme premier objectif de s'occuper de la décarbonation seront ensuite utiles dans ce travail sur la digitalisation des bateaux. Alors, la digitalisation et les bateaux autonomes, ça veut dire beaucoup d'autres choses que les données énergétiques, évidemment.
On l'imagine, oui. Voilà. Merci à vous, Jean Brosselet. Un site internet, ecomer-data.com, site illustré par un peintre officiel de la marine, Ewan Le Bourdet. À demain, Mathilde Minot.
À demain, José-Manuel Lamarque.
Le 5-7 sur France Inter.
Il est 5h16 à la une de la presse. Le voyage en France du président chinois, c'est la première visite d'État en France depuis 5 ans pour Xi Jinping. Alors que la guerre en Ukraine et les tensions commerciales ont détérioré les relations entre Paris et Pékin, la guerre et le commerce, voilà justement les deux enjeux de ce cette visite, selon les Échos. Et sur ces deux points, voilà ce que Xi Jinping dit dans une tribune qu'il publie dans le Figaro. Il promet d'ouvrir davantage le marché chinois aux entreprises françaises et occidentales. Et il assure comprendre le bouleversement qu'engendre la crise ukrainienne pour les Européens. De son côté, Emmanuel Macron cherche l'équilibre, comme le titre L'Opinion, une troisième voie pour ne pas avoir à choisir entre les États-Unis et la Chine. L'humanité dénonce un jeu de dupes. En dehors de cette actualité, vous verrez un puits de pétrole en première page de Libération. Le gouvernement a donné discrètement son feu vert à l'extension d'un site pétrolier en Seine-et-Marne. Mais sa mise en œuvre menacerait une nappe phréatique cruciale parce qu'elle alimente 180 000 franciliens en eau potable. La Croix revient sur les tensions que provoque la guerre à Gaza dans certaines universités françaises. Enfin, le Parisien aujourd'hui en France publie une enquête sur les contrôleurs aériens, ces 4 000 fonctionnaires indispensables à la sécurité. Zoom Zoom Zen en version vintage, c'est un vendredi par mois et le lundi matin dans le 5-7, on en écoute un extrait. Vendredi dernier, il était question des blogs qui ont connu leur heure de gloire dans les années 2000. Pour en parler, Mathieu Noël recevait le fondateur de Skyrock qui a définitivement fermé l'an dernier sa plateforme de Skyblog. Pour revenir aux origines des blogs, on pose la question à Cyril Lacarrière, d'où ça sort ?
Eh bien d'un Américain, et si j'en crois les photos de lui avaient sur les internets, d'un Américain au lot. Cheveux gris avec une longue barbe grise, son nom John Barger. C'est lui qui, le 17 décembre 1997, ouvre ce qui s'apparente en tout cas au premier blog, et à l'époque, on appelle ça un weblog. Son nom, Robot Wisdom Weblog, le nom du blog. Barger y écrit quasi quotidiennement sur des sujets comme l'écrivain irlandais James Joyce, mais aussi, surtout, sur l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'on est seulement en 1997. Barger a clairement un coup d'avance. Une succession d'articles publiés par Barger qui a apparaissent en ligne par ordre antichronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, je le précise pour quelques-uns autour de cette table. Cette époque est concomitante avec la naissance de la première plateforme mondiale de blogging, Open Diary, journal ouvert. Ces deux créateurs, aussi américains, Bruce et Susan Abelson. Ils parlent d'Open Diary comme du premier site web réunissant des rédacteurs de journaux intimes au sein d'une grande communauté. Bien avant Facebook, Instagram et les autres, le blog est la première ébauche d'une tendance qui va se généraliser, exposée sa vie privée au monde entier.
Et alors, en France, quand naissent les premiers blogs ?
Eh bien, dès le début des années 2000, les blogs apparaissent en France. Évidemment, votre plateforme, Pierre Bélanger, 2002, naissance des Skyblogs. En 2007, la plateforme se classe 17e site mondial. En 2011, le réseau revendique plus de 33 millions de blogs et 4,5 milliards de commentaires. Et puis, tout le monde va s'y mettre. Rapidement, d'ailleurs, on y parlera. Cuisine, DSK aussi aura son blog. En 2006, des jeunes de Bondy se lancent dans le journalisme et c'est comme ça que naîtra le Bondy Blog. En 2015, Barack Obama a fait venir des blogueurs à la Maison Blanche. Il répond aux blogueurs blagueurs. Et on est 6 ans avant qu'Emmanuel Macron invite McFly et Carlito. Bref, tout le monde a blogué. Moi aussi, j'ai le bien, effectivement. Et comment il s'appelle, on ne saura pas. Alors, plus de 20 ans après, pourquoi cette folie du blog ? De quoi ont-ils été les prémices ? Pourquoi est-ce qu'on s'est lassé ? Et si le blog revenait à la mode ? Qui étaient les blogueurs les plus influents ? Est-ce que les skyblogs de Manon et Quentin seront bientôt disponibles sur le site de l'INA ? On va voir. C'est ce qu'on va voir aussi durant une heure.
Quentin, lui, et Manon Mariani, dont Cyril Lacarrière se moque dès qu'il le peut dans son D'où ça sort. Tous les trois sont là quotidiennement dans Zoom Zoom Zen, émission présentée par Mathieu Noël, avec cette semaine des rediffusions. Rendez-vous à 16h avec les signes noirs, ces événements qui n'auraient statistiquement pas dû se produire, mais qui ont quand même eu lieu. Dans 3 minutes, on retrouve l'humour de Tanguy Pastureau. Ce sera juste après le duo américano-britannique The Kills avec 103. Days in LA, you saved me, baby, from strange times. You catch me cooking in the kitchen, looking in to the fire. Love a brother, bake a burning at the stake, but stick with me under the last palm tree. Sip a little water from the dirty fountain, meant to be. 103, The Kills, qui sont à l'affiche de plusieurs festivals en août, la Route du Rock à Saint-Malo, Rock en Seine en région parisienne et le festival Palmarossa de Montpellier.
France Inter.
Dans 6 minutes, le journal de 5h30, le temps d'écouter Tanguy Pastureau, notre humoriste aimerait bien avoir plus d'amis.
C'est formidable l'amitié, c'est quelque chose que j'adorerais connaître. Je viendrais à la radio, vous me diriez bonjour, vous lèveriez tous les yeux de votre téléphone au lieu de visionner des sites X, au bureau. En plus, la catégorie animaux s'est limitée une fois que vous avez vu un teckel. Vous les avez tous vus. Ces bestioles-là sont pas si inventives. Tiens, une statistique, il n'y a pas une start-up dans la Silicon Valley qui a été montée par un teckel. Par contre, faire caca sur la pelouse, ah, ça... Elles savent faire ces sales bêtes, c'est pas étonnant que la croissance stagne. À part les chiens de traîneau qui tirent des Inuits, ça bosse moyen du côté des canins. Bon, l'amitié, c'est ce sentiment qui réchauffe le cœur et surtout permet de faire des économies. Un déménagement, hop, coup de fil à des amis et ils arrivent. Et à qui veut gagner des millions, il y avait aussi le coup de fil à un ami. Mais ceux qui n'avaient pas d'amis, comment ils faisaient? Ils appelaient des inconnus? Alors nous avons en ligne Myriam de la CAF de Bordeaux. Myriam, question mythologie. Et l'autre répondait, ah bah non, là on ferme, rappelez mardi Jean-Pierre parce que lundi est férié. Et tout à l'heure à la radio, je dis bonjour à un ami, Daniel Morin, bon, qui me répond ta gueule. Et je lui dis, Daniel, retire ta main de mes fesses. Il répond, bon allez, entre amis quoi. Je lui dis, Daniel, as-tu lu le Huffington Post? Il répond, non, moi je lis uniquement Causeur d'Elisabeth Lévy, Valeurs Actuelles et le magazine de Papacito. Voilà. Et là il se met à hurler, on en a dans le calcif ou on en a pas dans le calcif?
Voilà.
Oui, immédiatement, je le tase avec un chargeur d'iPhone défectueux. Il convulse à terre. Françoise, la technicienne de surface de notre étage à la radio, le ramasse et le met dans un sac poubelle en disant, vous pouvez pas ramasser vos chroniqueurs après usage, tas de bourgeois. Parce que vous connaissez l'aigreur dont peuvent se montrer capables les gens précaires. Là, je prends mon smartphone, j'efface par réflexe les émojiqueurs que vous m'envoyez, Nagui, 50 par jour. On peut parler de harcèlement
c'est
numérique.
Vrai,
hein.
C'est vrai.
Et je rouvre cet article Huffington intitulé « Il me touchait les seins en riant quand les blagues d'amis virent à l'agression sexuelle ». Toucher des seins en riant, c'est une vieille spécialité française, le fameux poète-poète camion ou sa version parisienne poète-poète vélib. Hein, c'est la même chose, sauf qu'on pince des tétons en grillant des feux rouges. Quoi. Je pense qu'il n'y a qu'en France en fait, qu'on touche des seins en riant. Franchement, dans les autres pays, c'est vu comme une activité soit sensuelle, soit de dépistage, soit les deux si tu sors avec un radiologue qui n'arrive pas à décrocher du boulot. C'est notre héritage grivois. On aime le blanc, le rouge, les seins, les fesses. Donc dans l'article du Huffington, on parle de l'amitié qui dérape. Parce qu'en théorie, l'amitié s'arrête au moment où tu as les mains sur la poitrine de la personne. Sauf en cas de carnaval, si t'es déguisé en soutien-gorge, mais enfin c'est rare. Gwen, jeune dame de Paris, témoigne dans l'article, elle dit « J'ai un bon ami qui à chaque soirée me touchait les seins en rigolant. » Alors moi, ma réponse est « Change d'ami. On est 8 milliards sur Terre. Même s'il y a 7 900 000 cons, c'est à peu près ça la proportion. Hein. Bon bah, il reste quand même du choix. Tout le monde en soirée, vous tripote pas les seins. Parce qu'en fait, ces actes, ce sont des agressions sexuelles, mais commises sous le prétexte de l'humour. Ouais. Donc ça passe. C'est-à-dire que si tu frottes quelqu'un dans le métro mais en récitant un sketch de Foresti, eh ben c'est ok. L'humour permet les pires saloperies. Je suis pour l'interdiction de l'humour. Ça libérera énormément de temps d'antenne sur France Inter pour la musique. 30 humoristes virés, c'est 1000 euros par jour de droits d'auteur qui tombent pour Bertrand Belin. Dans l'article, Sophie, 25 ans, raconte elle avoir subi des attouchements en soirée after work. Ce sont ces soirées qui débutent à 19h. Donc 19h30, tu es ivre. Un mois longtemps, j'ai appelé ça vie quotidienne dans le Nord Finistère, mais enfin bon. Sophie raconte qu'une collègue, un soir, a mis son nez dans son décolleté en bougeant la tête. Bon, après, elle avait peut-être envie de se moucher et n'avait pas de Kleenex. Je veux dire, il ne faut pas voir le mal partout. Mais ça s'est fait sans le consentement de Sophie. Juste parce qu'on était en soirée et donc les seins, c'est rigolo. Hein, moi, je découvre. Moi, j'ai toujours trouvé ça plutôt joli, mais j'ai l'impression que pour les trois quarts des gens, entre un spectacle de Gad Elmaleh et des seins, ils iront vers les seins. Et c'est vrai qu'on met rarement son nez dans Gad Elmaleh. Hein, parce que c'est une star, bah, elle est peu accessible. Hein. D'ailleurs, dans le langage familier, les seins ont des noms rigolos. Néné, Lolo, Roploplo. Il n'y a pas la même chose pour les genoux. Et personne ne tripote le pouce en disant « Allez, dis voir la Martine, t'as de beau poupou hein, !» Ça n'existe pas. Alors dans l'article, Thomas, qui travaille dans le milieu médical, parle lui de l'humour grivois systémique qu'il y a dans son métier à l'hôpital. Il explique qu'il se fait même tripoter les fesses, donc parfois en pleine opération peut-être, donc il sursaute avec le scalpel, les zoue. Hein, il ouvre Madame Sanchez en deux dans le sens de la longueur, alors qu'il était venu pour un appendicite. Hein, direction Charal, la malheureuse finit à la cantine scolaire dans l'assiette des gosses. Et alors Thomas dit que quand il se rebiffe, on l'accuse de casser l'ambiance et on lui sort cette phrase, prélude à tant d'agressions sexuelles, ne fais pas ta mijaurée. Donc la règle, c'est ton corps t'appartient évidemment et tes seins ne sont pas un divertissement. Sinon à Disneyland, dans le monde de Peter Pan, on pincerait ceux de la fée Clochette. Et je précise que Daniel, bien sûr, ne me touche pas. C'est un homme moderne et respectueux dans un monde de beauf. Pour un peu, je ressentirais presque de l'amitié pour lui.
Tanguy Pastureau, tous les jours à 12h10 dans la bande originale de Nagui et Leïla Kaddour.
Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao.
Faites toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération. Par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley. Un concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
Les romans policiers ne sont pas réservés qu'aux adultes. Cela fait 40 ans que la maison d'édition Cirrose propose des polars jeunesse. On fêtera cet anniversaire dans la bibliothèque des ados avec une autrice pilier de cette collection, Sylvie Alouche. Christine and the Queens a récemment dévoilé une nouvelle chanson, un titre poétique. On vous le passe dans 5 minutes dans la chronique playlist, juste après le journal. France Inter, 5h30. Journal présenté par Héloïse Roger. On commence par l'Allemagne qui est sous le choc après deux agressions vendredi dernier, un député européen et un militant écologiste.
Les deux agressions ont eu lieu à Dresde dans l'est du pays. Les deux hommes ont été frappés à coups de poing et de pied pendant qu'ils placardaient des affiches pour les élections européennes. En réaction, deux manifestations ont eu lieu hier soir à Dresde et à Berlin. Sébastien Baer, vous avez croisé des manifestants inquiets du climat dans lequel se déroule la campagne électorale.
De la foule émergent quelques drapeaux, les verts du parti écologiste, dont un militant a été frappé à coups de pied et de poing, et les rouges du SPD, le parti social-démocrate du député européen agressé à Dresde.
Moi je suis SPD, l'attaque c'est affreux, ça m'a choqué. Ça peut tomber sur n'importe qui. Hein.
Partout, élus et militants sont de plus en plus souvent pris à partie. 112 délits liés à des motivations politiques recensés dans la région de Saxe depuis le début de l'année. Lars Klingbeil, le chef du parti social-démocrate, accuse l'extrême droite de durcir la campagne électorale.
L'ambiance est plus polarisée. Les attaques ont augmenté. Le langage devient plus brutal. Il y a des appels à la violence. Nous en faisons l'expérience dans la rue et sur Internet. L'AFD crée un climat social pour que les démocrates soient attaqués.
Depuis les agressions, les tractages et affichages du SPD sont organisés seulement en journée. Même précaution chez les Verts, assure la coprésidente Ricarda Lang, protégée par trois gardes du corps.
Nous avons fait des recommandations concrètes. Ne plus se déplacer seul pendant la campagne électorale. Il faut veiller à ce qu'il y ait des formations sur la manière de gérer les situations difficiles. Et bien sûr, que la police soit présente sur le terrain et bien préparée.
Après les européennes, trois élections régionales sont prévues en septembre en Saxe, Thuringe et dans le Brandebourg. Des scrutins jugés à risque dans trois Länders de l'ex-Allemagne de l'Est où l'extrême droite fait la course en tête.
Hier, un adolescent de 17 ans s'est rendu à la police. Il a avoué faire partie des agresseurs. Au Brésil, les inondations ont fait près de 80 morts dans le sud du pays. Plus de 100 personnes sont portées disparues. Des villes entières ont été englouties sous les eaux. Une situation dramatique et sans précédent, selon le chef de l'État du Rio Grande do Sul. Au Tchad, les 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. Une première depuis la mort du président Idriss Déby, tué par des rebelles en 2021. Le gouvernement lance aujourd'hui des assises de lutte contre l'antisémitisme. La ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, réunit ce matin à Paris les responsables de plusieurs associations et les représentants de cultes. Des victimes d'antisémitisme viendront également faire part de leur expérience.
Inauguré il y a 30 ans, le tunnel sous la Manche fête son anniversaire aujourd'hui.
Le 6 mai 1994 à Calais, la reine Elisabeth II et le président François Mitterrand lancé officiellement le top départ de ce tunnel qui reliait la France au Royaume-Uni. En réalité, ce sont trois tunnels qui ont été creusés long de 50 km chacun à 40 mètres de profondeur. Ce chantier, Philippe Cosette s'en souvient très bien. Il est l'ouvrier français qui a réalisé la jonction avec ses collègues anglais, reliant officiellement les deux pays.
Les images des derniers coups de marteau-piqueur, Philippe Cosette les connaît par cœur, mais à chaque fois, c'est le même sentiment.
Beaucoup de fierté. Là, c'est l'explosion de joie lorsque je touche la main de Graham Fagg. Il m'a dit « Bonjour mon ami » en bon français. Et moi, je lui ai répondu « Welcome to France » parce qu'on était du côté français.
La poignée de main est historique. La France et le Royaume-Uni sont désormais reliés. Et ce tunnel va changer la vie des habitants du Pas-de-Calais.
La région était plutôt enclavée. Le tunnel sous la Manche a amené la voie à grande vitesse depuis Paris, depuis Bruxelles. Également les deux autoroutes, la 26 et puis la 16 qui a relié tous les ports de la région.
La vie de Philippe Cosette continue sous terre. Même après le chantier, il travaille comme conducteur de train. Il voit les premiers migrants tenter la traversée et les abords du tunnel se transformer.
10 km de grillage et ensuite il y a encore eu un deuxième grillage d'installer.
Une forteresse surveillée au quotidien depuis le ciel.
Les hélicoptères de surveillance, les avions de surveillance, ça fait partie du décor.
Un décor dans lequel il organise des visites guidées pour les touristes. Il veut perpétuer la mémoire de ce qu'il appelle le chantier de sa vie.
Un reportage de François Ventéjoux. Il était le sélectionneur de l'Argentine quand le pays a gagné la Coupe du Monde de football en 1978. César Luis Menotti est décédé à l'âge de 85 ans. Plus jeune, il a été milieu de terrain dans des grands clubs argentins. Il a terminé sa carrière en jouant au Brésil en 1970 aux côtés de Pelé. Et puis le Stade Toulousain décroche sa place en finale de la Coupe d'Europe de rugby face aux Harlequins 38-26. 3 ans après leur dernier titre européen, les Toulousains affronteront les Irlandais de Leinster le 25 mai prochain et c'est à Londres.
C'était le journal d'Héloïse Roger. Le temps de ce lundi 6 mai, encore une journée où l'on ne verra pas beaucoup le soleil. Dans la partie Est déjà, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, les pluies sont soutenues. La Méditerranée aussi est concernée, à part la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'Ouest, le ciel est plutôt clément ce matin, mais ça va se gâter avec des averses possiblement orageuses qui vont arriver par la Bretagne et se généraliser aux régions atlantiques. Et entre les deux, ce ne sera pas folichon, mais les averses seront plus limitées. Les températures au réveil sont comprises entre 7 et 13 degrés. Pour cet après-midi, comptez de 14 à 18 degrés jusqu'à 25 en Corse. Il est 5h35, à suivre un reportage sur le monde du théâtre, très inquiet des coupes budgétaires. L'invité est déjà debout, il a un hôtel à Arles et on vous conseillera un roman policier destiné aux adolescents, écrit par Sylvie Alouche.
France Inter. Le 5-7.
Mais avant tous ces rendez-vous, l'actualité musicale. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Mathilde.
Dans votre chronique et dans la playlist de France Inter, on célèbre le retour de Christine and the Queens.
Printemps heureux après une fin d'année compliquée pour, disons-le simplement, l'étoile, l'interprète, auteur, compositeur, performeur, contraint d'annuler pour des raisons de santé en octobre dernier la tournée spectaculaire qui accompagnait son dernier album. C'est ainsi que l'artiste avait décidé en décembre, je cite, « d'adresser un geste punk pour un futur meilleur ». Le message est précis et passé. Staying Alive des Bee Gees, Chris Version pour dire bye bye à 2023. Alors tout n'était pas à jeter dans le calendrier puisque c'est aussi une année durant laquelle Christine avait sorti son 4e album, Paranoia Angels True Love, un album ambitieux à la fois délicat et mystique, un album pour guérir, nous dit Chris, tout ce contexte spirituel a ragaillardi mon approche de la musique. To be honest, le bien nommé, et rappelons aussi que sur cet album, une jeune chanteuse en devenir était venue réciter sur quelques titres une certaine Madonna.
Oui, à peine connue. Hein. Ça en dit long sur le poids accordé à Christine and the Queens en tant qu'artiste.
Y compris hors nos frontières, par 2 fois le Time lui avait déjà accordé la meilleure chanson de l'année pour Damn, Dis-moi et People Have Been Sad, entre autres titres honorifiques étrangers. Et c'est d'ailleurs aux côtés d'un binôme américain qu'on a pu l'entendre fin février, invité par le groupe MGMT et Christine and the Queens d'ajouter « J'ai été séduit par leur façon de bosser, un peu total, visuel et théâtral, je me suis sentie à l'aise et invitée pour ce que j'étais. Le titre s'appelle Dancing in Babylon. La sortie du nouveau titre de Christine and the Queens est accompagnée d'un texte dans lequel il est écrit « Le travail de l'amour se fait désormais dans les fréquences. Depuis Paranoïa qui m'a appris l'invisible, j'apprends que la musique est aussi sculpture de l'invisible. Chamanique, elle l'est parce que je crois que la musique peut nous sauver et nous soigner. Nous l'avons tous cet exemple en nous de cette musique. Voici donc la sienne, rentrée chez moi. »
C'est pas une raison pour tout foutre en l'air. C'est pas une raison, mais j'étais en colère. Je ne sais plus comment demander qu'on m'aime. Je suis impatient.
Rentrer chez moi, c'est le nouveau titre de Christine and the Queens dans la playlist Inter, playlist qui a sa chronique quotidienne dans le 5-7 signé Charline Roux. Charline, vous pouvez rentrer chez vous, mais revenez demain.
Promis.
Il est 5h41, le meilleur du théâtre français sera récompensé ce soir lors de la 35e nuit des Molières. Mais cette cérémonie intervient dans un contexte tendu car le monde du spectacle vivant n'échappe pas aux coupes budgétaires. Les premiers arbitrages visent les grandes institutions publiques comme l'Opéra de Paris, la Comédie Française ou le Théâtre de Chaillot. Mais le secteur redoute une deuxième vague de réduction et c'est toute la profession qui s'inquiète, Stéphane Capron.
Oui, et pas seulement pour les artistes au plateau, c'est toute la chaîne de production qui risque d'être touchée. Je me suis rendu à Saran, juste à côté d'Orléans, au théâtre de la Tête Noire, l'un des temples de la création contemporaine, dirigé par Patrice Doucher.
Ici, les auteurs et les autrices sont à tous les étages de la fusée. Ils sont aussi bien sur les plateaux qu'au centre de détention, les établissements scolaires, maternelles, universités, dans les quartiers. Il n'y a pas une chose qui se fait ici sans qu'un auteur ou une autrice soit associé.
Faire vivre le répertoire, c'est essentiel, mais raconter le monde d'aujourd'hui, c'est vital au théâtre. Et pour cela, il faut des écrivains. Claudine Galéa est l'une des autrices françaises les plus renommées en France. Elle vient d'écrire pour la Comédie Française Trois fois Ulysse, un travail qui peut prendre plusieurs mois.
C'est pas un travail qui est payé en fonction du temps qu'on y passe. Nous ne sommes pas intermittentes du spectacle, donc nous n'avons pas d'argent quand nous n'en gagnons pas. Nous n'avons pas droit au chômage. Et ça, tout le monde l'oublie. Rien n'arrête le mouvement de démolition de la vie culturelle en France.
La baisse des budgets va toucher toutes les structures et notamment les plus fragiles comme le théâtre de la Tête Noire de Patrice Doucher.
Moi je dis toujours, il y a un élastique qui se tend, il est tendu déjà depuis des années, mais à un moment il ne va plus se tendre, c'est-à-dire qu'il va casser. On ne peut pas toujours compter sur le volontarisme des artistes. Je pense qu'on pense un peu hâtivement que oui, ils vont râler, mais ils vont faire quand même. À un moment non, on ne pourra plus faire.
Et ce sont les compagnies indépendantes qui se font le plus de soucis.
Comme celle dirigée par Aline César, la compagnie Asphalt.
Est-ce qu'on recommencerait pas de la chanson pour voir l'enchaînement ? Ça va ou pas ?
L'été dernier, Aline César a présenté sa dernière création, S'enfouir, Pop Fiction, dans le Off à Avignon. Beaucoup de programmateurs sont venus, ils ont aimé, mais le spectacle n'a pas tourné cette saison et il y a très peu de dates prévues l'année prochaine.
Même si on sent une envie de certains programmateurs, on sent qu'il y a beaucoup plus de frilosité, à la fois par rapport à l'incertitude financière, par rapport aux coupes budgétaires, et puis aussi parce que ce climat fait qu'il y a une polarisation sur un peu tous les mêmes spectacles. Avant, il y avait un équilibre entre la création contemporaine. Moi, je suis là-dedans avec un texte contemporain et des classiques ou des valeurs sûres, des choses qui vont remplir parce qu'il faut aussi équilibrer. Aujourd'hui, on sent que les valeurs sûres prennent vraiment le pas.
Mieux produire pour mieux diffuser, c'est désormais le credo du ministère de la Culture. Rachida Dati a annoncé la semaine dernière une rallonge de 8,6 millions dans le cadre de ce plan pour un montant global de plus de 22 millions d'euros. 254 structures sont concernées, mais Véronique Fellenbock, la coprésidente de l'Association des professionnels de l'administration du spectacle, doute que cet argent aille aux plus précaires.
Au centre de ce plan, il y a les structures. Les équipes artistiques ne sont mentionnées nulle part. Donc les structures sont en difficulté. Si elles ont des moyens accrus, elles vont vraisemblablement l'utiliser pour compenser leurs déficits. Donc nous, à la PASS, nous pensons que s'il n'y a pas un plan de sauvetage des compagnies, il va y avoir de la chute en termes de richesse du paysage artistique de notre pays. Et il va y avoir une émergence qui ne verra pas le jour.
Et d'après une enquête de cette association auprès de ses adhérents, 22% des artistes réfléchissent à l'arrêt de leur carrière ou à dissoudre leur compagnie.
Stéphane Capron, spécialiste du théâtre sur France Inter, ce Zoom est en ligne sur notre site. Quant à la cérémonie des Molières, c'est ce soir à 21h au Théâtre des Folies Bergères à Paris et c'est diffusé sur France 2.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h moins le quart. À cette heure-ci, un auditeur nous attend au bout du fil. Un auditeur qui nous a écrit pour participer au coup de fil Déjà Debout. Bonjour Frédéric Jacquemin.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter et merci de votre fidélité au 5-7. Je sais que vous nous écoutez souvent en travaillant. Vous êtes propriétaire avec votre femme d'un hôtel-restaurant à Arles qui s'appelle Le Calendal. Le réveil sonne à quelle heure chez vous ?
Chez nous, le réveil sonne à 5h30.
Et vous commencez la journée par quoi ?
On commence la journée en général préparer pour le café pour les premiers clients. Donc ça veut dire on cuit les vinoiseries, on prépare les jus de fruits. Et après, on a les premiers clients, on a beau être en hôtel, qui sont souvent des voisins ou des habitués de notre café, parce qu'on a aussi une partie un peu café.
D'accord, vous accueillez aussi les personnes qui ne sont pas clientes de l'hôtel.
Tout à fait.
D'accord.
De l'ouverture extérieure.
Et vous, vous occupez plus particulièrement de l'espace restauration, justement ?
Tout à fait, avec mon épouse, elle qui est plus sur l'hôtellerie.
D'accord, donc ça veut dire que vous gérez le petit-déj, le déjeuner, le dîner aussi ?
Non, on est plus orienté apéritif, sûrement à l'attrait de l'alcool.
Ça fait quand même des journées à rallonge.
Oui, tout à fait, c'est ce métier qui est assez chronophage.
Mais métier passion.
Oui, énormément, c'est un métier d'amour. C'est vraiment accueillir les gens chez soi, c'est un vrai plaisir, quoi.
Vous dites chez soi, cet hôtel c'est chez vous en fait.
C'est notre deuxième maison déjà, rien que par rapport au nombre d'heures qu'on y passe, d'une part, et d'autre part parce que c'est aimer les gens, quoi. C'est vraiment accueillir des gens, c'est des métiers d'hospitalité, autant vis-à-vis des clients que l'on reçoit que des collègues avec qui on travaille.
Et ça compte plus.
Ça
compte plus ça que, je sais pas, la qualité du lieu en lui-même, c'est l'accueil, l'amabilité.
Oui. Les clients, ce qui revient avant tout sur les commentaires qu'ils disent de nous, c'est l'amabilité des gens. Et ça, c'est une vraie richesse.
Et vous avez toujours fait ça ?
Oui, mes parents étaient déjà dans ce métier.
Et alors, il paraît, en tout cas, c'est ce que vous dites sur votre site internet, je suis allée voir, que vous avez le plus bel emplacement d'Arles. Rien que ça.
Eh oui, on est prétentieux.
Alors, vous êtes où, Arles ? Qu'est-ce qu'il a de magnifique, justement, votre hôtel ?
Eh bien, en fait, déjà, Arles est quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO en termes de classement, donc ça, c'est pas rien. Et nous, on est juste entre les deux bâtiments, les monuments principaux qui sont le théâtre antique et les arènes qui datent quand même à peu près de 4, juste avant Jésus-Christ, quoi.
Effectivement, c'est pas mal situé. Il paraît que la vue de votre terrasse est dingue.
Ouais, c'est très, très, très sympa. En plus, il y a la cathédrale Saint-Trophime derrière. Nous, on a la chance. Tous les jours, on a du matin au soir. Quand on a le temps, on regarde un peu. On a un paysage, mais on s'en lasse jamais, quoi.
Alors moi, ce qui me plaît bien aussi dans votre façon d'appréhender le travail, c'est le fait que vous tendiez la main, que ce soit à la fois vos employés, parce que je sais que certains ont été en échec scolaire, et voilà, vous leur dites, on a une deuxième chance dans la vie.
Tout à fait. Nous, on a des métiers en général, l'hôtellerie et surtout la restauration, où en termes de compétences, il y a tout à apprendre sur place. Et donc, en conséquence, suffit d'aimer l'autre. Parce que la notion d'amour dans ces métiers, de l'hospitalité, est tellement importante qu'après, le reste... Ouais. Et en plus, nous, on a la chance... on n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Quand vous venez au café ou au restaurant, en général, ou à l'hôtel, sauf si c'est des obligations professionnelles, ce qui, nous, dans notre cas, est assez rare, c'est des gens qui viennent pour passer un bon moment. Donc, si on fait juste notre travail, On les rend heureux, c'est énorme quand même ça.
C'est gratifiant en effet.
Oui,
et,
oui.
Et alors vous tendez la main aussi, en tout cas vous l'avez fait au moins une fois, je sais, aux étudiants de l'école de photo d'Arles. Racontez-moi.
Ah oui, ah, ça c'est un peu atypique. C'est-à-dire on a eu la chance de pouvoir faire un partenariat à l'École nationale supérieure de la photo, mm-hmm. qui est à Arles, d'accord. Et en fait, il y avait deux sens dans cette démarche. La première, c'était d'aider la jeune création qui était les étudiants de l'école photo, en leur faisant un appel d'offres rémunéré, mm-hmm. d'accord. Et chaque fois, et donc, si vous êtes allé sur le site, vous avez pu voir,
oui.
dans chaque chambre, la tête de lit est une photo qui correspond aux quatre thèmes. Comme on a quatre bâtiments dans l'hôtel, on a mis quatre thèmes, d'accord. Et donc, il y avait le cinéma, la peinture, l'architecture et la littérature. Et pour chaque étudiant, on leur a dit, tiens, pour cet appel, pour cette thématique, qu'est-ce que c'est pour vous? Pour vous dire, on a une chambre, d'accord, la chambre, on a, pour qui était sur le cinéma, un étudiant nous a fait un photomontage de Bruce Lee avec l'amphithéâtre derrière, en 2D. Bon, c'est assez atypique, mais le reste après,
et
c'est
ben
quand
voilà.
même en général des choses un peu plus locales.
Première expérience donc pour ces étudiants. Merci beaucoup Frédéric Jacquemin de nous avoir accordé quelques minutes en direct donc de votre hôtel-restaurant qui s'appelle le Calendal et qui est donc situé en plein cœur d'Arles. On peut pas le louper. Hein. C'est donc le plus bel emplacement de la ville, il paraît. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Il est 6h10. On retrouve Camille Cronier et les petits bateaux pour une question pas évidente. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, on va se poser et réfléchir.
Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 7 ans, je voudrais savoir comment les gens deviennent racistes. Merci de m'en répondre.
Et merci à toi Mathéo, comment les gens deviennent racistes? C'est-à-dire, je précise, les enfants pensaient qu'il y a des races entre les humains en raison de la couleur de peau et que certaines sont meilleures ou moins bien que d'autres. C'est résumé. Hein. Je suis avec Adeline Azan, magistrate et présidente de l'UNICEF France qui défend partout le droit des enfants. Alors, est-ce que vous avez une réponse à donner à Mathéo?
Une réponse comme ça, certaines non, mais enfin quelques idées sur la question. Et je trouve que la question de Mathéo est vraiment fondamentale, justement, pour bien vivre en société. Alors moi, je dirais qu'on ne personne ne naît raciste. Je pense qu'on le devient. On le devient comment? Ben, quand on est un enfant, par exemple, on n'est pas raciste. Si des enfants peuvent avoir des propos racistes, c'est parce qu'ils reproduisent ce qu'ils ont pu entendre, soit dans la famille, soit ailleurs. Mais ils n'ont pas instinctivement cette démarche d'être raciste. Alors, comment on le devient ? Parce que, justement, on n'est pas habitué à supporter des personnes qui sont différentes de nous, et surtout parce qu'on ne réalise pas que, loin d'être une difficulté, vivre avec des personnes qui sont différentes de nous, eh bien, c'est une richesse. Ça n'est pas un handicap, c'est une richesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, en France, être raciste, et par exemple, prononcer des propos racistes, c'est un délit. On n'a pas le droit de le faire.
C'est sanctionné par la loi.
C'est sanctionné par la loi. Et qu'une discrimination raciste, c'est sanctionné par la loi. Je vais t'expliquer. Si un employeur, si quelqu'un candidate bien, c'est une discrimination raciste, elle sera sanctionnée par la loi.
Et donc, Mathéo qui dit comment les gens deviennent racistes, donc vous disiez ça peut être aussi quand on est petit par reproduction. Est-ce mm-hmm. que quand on est adulte, on peut devenir raciste? Ça, c'est pourquoi? Comment on explique ça, le fait qu'on n'aime pas les autres qui sont différents de nous?
Parce qu'on n'est pas habitué, je pense, parce que ces personnes-là ne sont pas habituées. Parce que moi, je reste convaincue que, par exemple, quelqu'un qui a été habitué à vivre avec des gens complètement différents, eh bien, il ne deviendra pas raciste. Puis alors, il y a le racisme par rapport à l'ethnie, à l'origine, mais il y a d'autres formes, ça ne s'appelle pas racisme, mais c'est le même principe, qui est ne pas aimer les gens d'une autre religion, par exemple l'antisémitisme, l'islamophobie, ne pas aimer les gens qui ont une autre orientation sexuelle que la sienne, ça s'appelle l'homophobie. En fait, tout ça, on peut l'englober, c'est un petit peu le même mécanisme, c'est ne pas aimer les gens qui ne sont pas comme nous. Et ça, il faut combattre ça par tous les moyens et il faut arriver à faire comprendre que justement, coexister dans une société avec des gens qui ne sont pas comme nous, c'est une richesse. Et je ne sais pas si Mathéo sera d'accord avec moi, mais si Mathéo, il était uniquement avec des petits garçons qui lui ressemblent et qui sont quasiment copies conformes de lui, est-ce qu'il s'ennuierait pas ?
Eh ben, tu nous diras, Mathéo, mais j'ai ma petite idée. Salut les matelots !
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux avec Camille Cronier.
France Inter. Le 5-7.
Aujourd'hui, un polar au programme de la Bibliothèque des Ados. Bonjour Anna Pascal.
Bonjour Mathilde.
Sorry Mom de Sylvie Alouche.
Oui, et je précise que c'est un conseil approuvé par Michel Abesca.
Michel, notre chroniqueur du jeudi, spécialiste des romans noirs.
Sorry Mom, c'est une nouvelle enquête de la commissaire Clara Di Lazio que l'on suit depuis 2017 et maintenant 5 romans sur la piste toujours tortueuse des trafiquants, délinquants et criminels en tout genre. Quand le roman s'ouvre, elle vient de se voir confier une affaire particulièrement sordide et mystérieuse. Le corps nu d'une femme a été découvert dans une poubelle au milieu d'une cité du 19e arrondissement de Paris, dans un quartier sensible. Pas d'identité, pas d'indice, toute l'équipe s'arrache les cheveux. Et d'ailleurs, la commissaire ne se prive pas de dire le fond de sa pensée à son chef avec toute la diplomatie qui la caractérise.
Elle n'est pas pour nous cette affaire. On est limite hors de notre zone de compétence et on a déjà du pain sur la planche. Mon groupe est crevé. Ils n'ont pas eu 2 jours de congés consécutifs depuis des lustres. Je suis en train de tirer sur la corde et s'ils me lâchent, je ne pourrai pas leur en vouloir.
C'est dans ce contexte tendu que débarque Lilo, la nièce adolescente de la commissaire, qui rêve de travailler elle aussi dans la police et que sa tante a accepté de prendre en stage. Elle l'a tout juste récupérée à la gare quand elle reçoit un appel qu'elle attendait avec impatience.
Oui, Garnier ?
Vous pouvez passer, commissaire ?
Maintenant ?
Je pense que vous devriez voir ce que j'ai trouvé sur et dans le corps de la victime.
Vous pouvez m'en dire un mot par téléphone ?
Non.
C'était pour le boulot ?
Oui, le médecin légiste. Je dois me rendre à l'IML.
Où ça ?
Ils ne t'apprennent pas ça dans tes bouquins ? L'Institut médico-légal.
Si, si, la morgue, quoi. J'ai pas encore tout retenu et je te signale que j'apprends toute seule pour l'instant.
Tu ferais mieux de réviser ton bac, parce que sans le bac...
Ça y est, on dirait maman. Bon, je peux t'accompagner ? C'est pour une autopsie ?
Pas question.
Et voilà.
Et voilà quoi ? Tu crois qu'à 16 ans, j'assistais à une autopsie ?
Presque 17 ans.
Bon, je te ramène à la maison ou je te laisse au commissariat avec Nathan. Tu choisis.
Je préfère rejoindre Nathan. Faut que je me mette tout de suite dans le bain, non ?
Et on peut dire qu'elle va y plonger la tête la première dans le bain. Surtout que les conclusions du médecin légiste laissent l'équipe plus que perplexe et que le mystère s'épaissit avec la découverte d'un enfant muet et presque mort de soif dans une cave proche de la scène de crime. Par ailleurs, on suit d'autres personnages dont le chemin va croiser celui des enquêteurs, notamment Manon, une jeune journaliste bosseuse qui a beaucoup d'ambition, et puis Jules, le fils du ministre de l'Intérieur, dont le comportement autodestructeur cache très certainement quelque chose. Leurs histoires sont comme autant de fils qui s'entrecroisent et qui, on s'en doute, finissent par se rejoindre. Mais il va falloir beaucoup de café à Clara Di Lazio et toute l'implication de son équipe hyper dévouée pour espérer trouver la clé de cette affaire. On s'intéresse un peu aussi à la vie personnelle de chacun, mais surtout, on se creuse la tête avec les enquêteurs, on assiste à leurs réunions et on les suit dans des interventions qui peuvent s'avérer très dangereuses.
Il y a un côté série télé, en fait.
Oui, un peu, mais alors vraiment une bonne série. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues, qui sont d'ailleurs un des points forts du livre. Ils sont très vivants et souvent drôles, surtout quand c'est la commissaire qui interagit avec son équipe, parce qu'on l'a vu, elle a un caractère bien trempé. Et au-delà de l'intrigue, de l'action et du suspense qui rendent ce livre très prenant, on est aussi sous le charme de cette flic bourrue pour qui rien ne va jamais assez vite et qui est aussi râleuse qu'elle est humaine et perspicace.
Et pourquoi ce titre « Sorry Mom », désolée maman ?
Parce que la question du lien à la mère est comme un fil rouge dans ce roman. Comme dans les précédents, qui évoquaient des sujets comme le harcèlement sur les réseaux sociaux, le trafic de drogue ou le trafic d'êtres humains, Sylvie Alouche attire ici l'attention de ses lecteurs sur une réalité difficile, je ne vais pas dire laquelle, sinon j'en dirais trop, mais je pense qu'on peut lire le titre de manière plus large, comme une affirmation d'indépendance, celle de tout, de toute jeune adulte qui commence à faire ses propres choix sans attendre l'approbation de sa maman et qui en assume les conséquences.
Sorry Mom de Sylvie Alouche, c'est à lire à partir de...
De 12-13 ans.
Et c'est publié par Syros, un éditeur qui vient de fêter ses 40 ans. Bonne journée, Anna Pascal, vous êtes libraire chez Chantelivre à Paris.
France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Instagram, retrouvez le meilleur des émissions, nos reels et nos stories.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
5h59.
La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Clean, nous, c'est le pied.
Nuages et averses encore au programme, Céline Dacosta.
Oui, mais c'est quand même sur l'est du pays qu'on aura le plus de précipitations. Des averses qui seront même orageuses du sud-est à la Franche-Comté avec de bonnes quantités de pluie. On aura un petit peu de neige également sur les Pyrénées et les Alpes au-dessus de 2200 mètres. Les Alpes-Maritimes et la Corse devraient rester au sec avec un soleil bien voilé. Ça, c'est pour l'est. Un petit coup d'œil à l'ouest où ce sera plus calme, surtout de l'Aquitaine au centre et en Bretagne, où on aura quelques éclaircies, mais les nuages vont vite reprendre le dessus. On aura même des orages dans l'après-midi sur le quart nord-ouest. Pour toutes les autres régions, un ciel de traîne classique va se mettre en place avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de faibles averses. Les températures encore assez douces le matin, 7 à 13 degrés, ça baisse un